En ce lundi matin ensoleillé du 26 mai, on va se faire une petite jasette politique fédérale avec Marc-André Leclerc, qui est analyste politique, entre autres au Journal de Québec, directeur principal affaires publiques chez National aussi. Il est au bout du fil. Bon lundi matin, Marc-André.
Bonjour, bon lundi.
Hey, merci d'être là. Toujours un plaisir, cher ami.
Toujours.
Marc-André, commençons avec le Parti libéral au fédéral. Les élus libéraux ont voté hier contre une disposition qui leur permettrait de montrer la porte à un chef, dans ce cas-ci, Mark Carney. Deux questions, une question en deux parties. T'as pensé quoi d'amener ça au vote chez les libéraux et t'as pensé quoi du résultat, le fait qu'on a décidé de voter contre?
Ben en fait, tout d'abord, les députés n'ont pas le choix de faire ce vote-là. Là. Okay. C'est une loi qui a été passée là en 2015. C'est un projet de loi privé là, d'un député conservateur, Michael Chung, qui fait en sorte qu'après chaque élection, lors de la première rencontre du caucus, il y a différents votes là, qui doivent se faire. Et par exemple, voter le président du caucus. Et parmi ces quatre votes-là, il y en a un qui porte, est-ce qu'on se donne le mécanisme de pouvoir expulser, est-ce que les députés se donnent le mécanisme de pouvoir expulser leur chef en cours de mandat? C'est l'outil hein, que les conservateurs avaient utilisé en 2021 pour expulser Erin O'Toole. Mm-hmm. Les conservateurs, lors de leur premier caucus après l'élection du 28 avril, eux, ont voté en faveur de se donner ce pouvoir-là. Les libéraux, hier, ils ont dit non. Je suis pas vraiment surpris parce qu'il y a quand même un débat hein, au sein des élus, à savoir qui a le dernier mot sur un chef. Est-ce que ce sont les membres qui ont permis à un chef de devenir le leader du parti, comme ce fut le cas pour Pierre Poilievre en septembre 2022 ou pour Mark Carney le 9 mars dernier? Donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé, les députés, de dire, ben, on laisse le pouvoir aux membres, hein, et que ce soit, peu importe les formations politiques, il y a des technicalités qui changent, mais habituellement, exemple, après une défaite électorale, le chef doit subir un vote de confiance, mais un vote de confiance par les membres et non pas seulement par les députés.
Avec ce que les libéraux, Marc-André, ont vécu avec Justin Trudeau, ça te surprend pas qu'ils n'ont pas décidé d'avoir ce pouvoir-là ou cette possibilité-là?
Ben oui et non, dans un sens que oui, on aurait pu dire, ouais, après l'année 2024, ouais, les députés qui cherchaient des façons de l'expulser, puis ont mis de la pression sur M. Trudeau. Mais d'un autre côté, ce qu'on sentait également, c'est que les députés ne voulaient pas envoyer le message. Parce que c'est sûr et certain que lorsque les députés se donnent ce pouvoir-là, ce mécanisme-là, c'est sûr que ça envoie un message par rapport au fait que le chef est sous surveillance ou non. Et dans ce cas-ci, les libéraux, je pense, sont juste contents d'être heureux d'avoir conservé le pouvoir après deux années et demie là, d'être deuxième dans les sondages. Donc, je pense qu'ils sont juste contents d'être là. Et ceux qui sont ministres sont contents d'être ministres. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que oui, d'un côté, on aurait pu penser qu'ils l'auraient fait à cause de Justin Trudeau, ce qu'ils ont vécu avec Justin Trudeau. Mais d'un côté, je pense qu'ils sont juste comme, regardez, on va mettre ça derrière. Mm-hmm. On va pas ouvrir cette porte-là. Donc, on va s'assurer de ne pas avoir d'histoire ou de journalistes qui cherchent à savoir si les députés déclenchent un processus là, quand ça va, mettons, moins bien dans les sondages.
C'est semaine de rentrée parlementaire à Ottawa. Est-ce que le gouvernement de Mark Carney a vraiment le temps, dans les semaines qui s'en viennent avant l'été, là, ça va s'en venir vite, c'est une histoire de quelques semaines, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire avancer des choses? Est-ce qu'on a le temps de faire passer des lois? Ou c'est quasiment, on revient une couple de semaines pour la forme, mais la vraie job va se faire après l'été?
Ben, si on écoute Mark Carney dans les derniers jours et encore hier devant son caucus, là, il dit que les libéraux vont être très occupés, là. Bon, ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'il dit qu'ils vont être très occupés. Cependant, présentement, on n'a aucun signaux de la part de M. Carney du fait est-ce qu'il va prolonger la session actuelle. Là. Donc aujourd'hui, ça débute avec à 8h avec l'élection du président de la Chambre et ça va et la session dure 4 semaines là, jusqu'au vendredi 20 juin. On sait qu'en campagne électorale, Pierre Poilievre avait dit, lui, que les députés n'allaient pas avoir de vacances estivales. M. Carney n'a pas fait la même promesse, il n'a envoyé aucun signal actuellement qui allait faire en sorte qu'il allait prolonger suivant le 20 juin. Donc, d'un côté, il nous dit qu'il va adopter plein de choses d'ici la fin de la session. Bon, il y a des choses qui doivent passer par projet de loi. Il y a des choses qui sont plus des décisions exécutives du gouvernement. Mais disons que son agenda est très, très, très chargé. Et je me demande si M. Carney ne va pas frapper le mur de la réalité, là, de la lenteur de la machine gouvernementale. M. Carney est habitué de vivre dans un monde où le privé, où les choses vont beaucoup plus vite. Là, il risque de voir que les choses vont beaucoup plus lentement. Mais s'il y a différents projets de loi, la baisse d'impôts, enlever des barrières interprovinciales, également, M. Carney, hier, devant son caucus, il parlait de faciliter l'adoption de projets énergétiques. Il pourrait faire ça dans un projet de loi, là, un projet de loi mammouth, omnibus, mettre plusieurs projets de loi ensemble pour adopter ça rapidement d'ici le 20 juin. Mais de passer toutes les étapes à la Chambre des communes, toutes les étapes au Sénat, donc c'est assez colossal.
Hey Marc-André, tu l'as mentionné, c'est aujourd'hui qu'on va élire le président à la Chambre des communes. À quel point c'est une nomination importante, ça?
Ben, c'est important parce qu'il y a des privilèges qui vient avec là, un meilleur salaire pour le député qui est élu. Également, ça vient avec une résidence officielle, ça vient avec un titre, un prestige. Puis également, ben c'est tous les travaux de la Chambre, la gestion de la période de questions, les budgets, tout ça. Fait que c'est un rôle qui est très important dans les activités parlementaires là ce matin. Et c'est un peu spécial hein, la façon que ça fonctionne. C'est pas que tu te portes candidat, mais c'est plutôt que il faut que, dans le fond, après chaque élection, comme là on a 343 députés, les ministres, les chefs de parti ne sont pas éligibles à ce poste-là. Mais toute la balance, là, toutes, mettons, les 300 autres députés, faut que tu retires ton nom. Faut que tu parles avec les officiers de la Chambre des communes pour dire « je ne veux pas être candidat ». Fait qu'à la fin, on connaît les 8 qui restent et les 8 personnes qui ont le goût d'être candidat, c'est ceux qui n'ont pas demandé qu'on retire leur nom. Donc, tu ne déposes pas ta candidature, c'est que tu enlèves ta candidature. Il en reste 8, donc Craig Fergus, député libéral dans la région de l'Outaouais, qui était le président en titre là, lorsque la Chambre a siégé pour la dernière fois là, en décembre dernier.
Est-ce que t'as un petit 2 piastres à mettre sur ça va être qui? Parce que là, ça peut autant être un libéral qu'un conservateur, de ce que je comprends.
Oui, effectivement. Dans les 8, il y a 6 libéraux, 2 conservateurs. C'est sûr qu'on était un gouvernement qui est minoritaire, 169 sièges pour les libéraux, ça en prend 172. C'est sûr et certain que si c'est le président est un député libéral, ce qui fait en sorte que c'est que les libéraux s'enlèvent un vote. Là. Ouais. Donc, à chaque fois qu'ils vont voter, ils vont être 168. Le président ne vote pas, à moins d'une légalité. Bon, ce qui arrive plutôt rarement, là, on s'entend. Mais c'est ça, à 168, est-ce que les libéraux vont décider de s'enlever un siège? Est-ce qu'ils vont vouloir gouverner? On attend beaucoup M. Carney dire « j'ai un mandat fort, j'ai un mandat fort, j'ai un mandat fort ». Donc ça nous dit un peu que je crois que ça va être un député libéral. Probablement que M. Fergus, parce que c'est l'ancien qui était là. Mais c'est un vote qui est préférentiel. Hein. À une certaine époque, les députés votaient à plusieurs fois, à plusieurs tours. Là, c'est un vote qui est préférentiel. Donc, chaque député va devoir voter en mettant là ses préférences de 1 à 8. Là. Et là, dans le fond, ils n'ont pas besoin de voter une deuxième fois. C'est que lorsque le dernier de chaque tour, on redistribue ses votes, ainsi de suite. Donc, probablement que sur l'heure du lunch, on devrait connaître le nouveau président de la Chambre des communes.
Marc-André, on est parti dans les dernières semaines de pas de budget, mais un énoncé économique à l'automne à finalement un budget à l'automne. Ouais. Comment on explique cette confusion-là? C'est-tu que là, je pense que c'est M. Champagne, le premier qui avait parlé de juste un énoncé économique, puis c'est Mark Carney après qui était venu rectifier les choses. Est-ce que c'est qu'on lançait un peu une balloune, puis qu'on a vu que ça faisait pas l'affaire de que ce soit juste un énoncé économique, on a changé les plans, ou c'est juste une grosse confusion?
Ouais, moi je pense une grosse confusion entre M. Carney et M. Champagne. Probablement qu'on a... Parce que M. Champagne est sorti un peu... tu sais, c'est pas un point de presse en tant que tel. Là. C'est une mêlée de presse à la sortie du premier conseil des ministres. Puis là, on nous a lancé cette espèce de bombe-là parce que tout le monde s'attendait. Parce que le dernier énoncé économique remonte au 16 décembre, cette fameuse journée où Chrystia Freeland a démissionné, on connaît la suite. Après ça, il faut retomber après ça au printemps 2024 pour avoir un budget en bonne et due forme. Donc, quand M. Champagne est arrivé avec ça, pas de budget, une mise à jour économique. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'argumentaire que les deux hommes, M. Carney, M. Champagne, utilisent pour expliquer pourquoi il n'y a pas de budget cet été. M. Champagne, il parle plus d'une séquence. Là, c'était la bonne séquence, discours du tour, projet loi, puis on arrive avec une mise à jour à l'automne. Tandis que M. Carney, là, de son séjour à Rome pour la messe inaugurale du pape Léon XIV, ben là, lui, c'était plus comme, ben, on peut pas en déposer un présentement parce qu'il y a une rencontre de l'OTAN, on attend des chiffres-là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, les dépenses. Donc, il y avait plus un argumentaire un peu différent, puis également une conclusion différente par rapport à une mise à jour versus un budget. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on a un budget cet automne, puis on aura un autre budget à l'hiver? Est-ce qu'on veut changer le cycle budgétaire? Mais clairement, ça fait un peu bizarre hein, d'arriver avec un budget à l'automne. On nous dit tôt à l'automne, hein, parce que la dernière mise à jour économique de l'automne était le 16 décembre. Là, fait qu'on était proche de l'hiver, on s'entend. Mais on va arriver avec une mise à jour, un budget à l'automne où ce que une grande portion de l'année va être déjà écoulée. Là, fait que ça fait un peu bizarre. Également, il y a beaucoup d'entreprises, organismes, organisations qui attendent des fois des renouvellements de financement. Comment le gouvernement va gérer ça par rapport à ces programmes-là qui demandaient des extensions, des renouvellements de fonds? Ça aussi, ça risque d'être un peu compliqué là, pour plusieurs entreprises ou organismes.
Pierre Poilievre, le chef conservateur, pousse pour qu'il y ait un budget présenté dès ce printemps ou du moins dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est juste de pousser parce que c'est bon politiquement ou il y a vraiment des chances, tu penses, Marc-André, que Mark Carney se ravise et présente un budget?
Zéro chance qu'il y ait un budget, je pense, avant la fin d'été. Mais cependant, entre nous, là, et ça, c'est pas des grands secrets d'État, c'est Dominique Leblanc, là. Parce qu'il faut comprendre que le 20 décembre dernier, ben, le 16 décembre, lorsque Mme Freeland a quitté, c'est Dominique Leblanc, là, qui a été nommé ministre des Finances, qui était ministre des Finances jusqu'au 14 mars, là, le premier conseil des ministres formé par Mark Carney. Et M. Leblanc, en janvier, février, mars, disait qu'il travaillait sur un budget, là. Pour donner l'opportunité à peu importe quel est élu comme chef libéral le 9 mars de pouvoir présenter un budget si le nouveau chef, le nouveau premier ministre décidait de ne pas aller en élection. Donc, il y a un travail qui a été fait. Ce qui est intéressant également, c'est de voir également ce que Mélanie Joly a dit au cours des derniers jours en entrevue, je pense que c'est dimanche dernier, il y a une semaine, qu'elle disait ben on devrait être en mesure de présenter quelque chose pour dire aux Canadiens l'état des finances publiques. C'est la seule qui a dit ça. Encore là, est-ce que c'est un peu de l'improvisation? Mais clairement, moi, je m'attends pas à un renversement de décision. Ça serait très, 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 très surprenant que Mark Carney vienne se contredire lui-même en disant « Oh, on va en déposer un d'ici la fête du Canada. »
Hey, Marc-André, en terminant, le roi Charles le IIIe sera en visite ici au Canada. Il s'en vient pour la lecture du discours du trône demain à Ottawa. Ouais. T'en penses quoi? Puis ça sert-tu vraiment à quelque chose?
Ça sert à rien du tout. Ça, faut être honnête.
Commençons avec ça.
On va être assez clair ce matin là-dessus. Ben, c'est un symbole que le gouvernement du Canada voulait faire en demandant au roi Charles III. On dirait que c'est comme une demande, tu sais, qui est arrivée. Probablement qu'ils ont eu cette idée-là. Tu sais, ils l'ont pas invité avant hier, là.
Ouais.
Fait que probablement qu'ils ont eu cette idée-là durant la campagne électorale, là. Un moment où c'était plus critique, où les tensions étaient là, mais bon, on dirait que comme par magie, un peu depuis le 28 avril, là, je sais pas pour vous, mais on dirait qu'on sent moins, là, tu sais, Trump, il nous a laissé tranquille, il s'occupe des autres pays, parle beaucoup moins de l'histoire du 51e État, l'ambassadeur des États-Unis au Canada nous dit que le 51e État, c'est derrière eux, que Charles III, c'est pas nécessaire, que si M. Carney a des enjeux, il a juste à appeler M. Trump. Donc, c'est comme si on l'a invité à un moment où on trouvait ça, c'était critique, mais là, c'est difficile de le désinviter. Hein. Fait que là, c'est comme il s'en vient, faut gérer. Ça fait juste réouvrir et ça, je suis pas certain que c'est vraiment ça que l'équipe de M. Carney voulait. Ça réouvre le débat présentement sur la monarchie au Canada. Là.
Ouais. Surtout au Québec, certain. J'ai l'impression.
Oui, surtout au Québec. Mais même quand on regarde les chiffres hors Québec, là, ben c'est parce que Charles III, là, il n'est pas le plus populaire de la gang. Élisabeth II, c'est une autre chose. Là. Mais Charles III, là, c'est pas vraiment le plus populaire de la famille royale, même du côté du Canada anglais. Fait que ça ouvre ce débat-là qui était pas vraiment nécessaire, puis c'est pas vraiment le débat que tu veux ouvrir en début de mandat quand M. Carney nous dit que ses priorités, c'est baisser le coût de la vie, c'est le crime, c'est le logement, c'est la défense, c'est les États-Unis. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Puis entre nous, je pense pas qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui et demain, là, parce que le discours du trône, c'est demain avant midi, mais je pense pas que Donald Trump va regarder ça et il va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive là, là? Tu sais, ça va changer sa perspective. Les tarifs sont toujours là, hein, malgré une bonne rencontre au bureau Oval, les tarifs sont toujours là. Et ce qui était intéressant de lire également au cours de la fin de semaine, parce que vu qu'il faisait extrêmement beau, là, oui, on avait le temps de lire, c'était des ministres et des élus britanniques qui étaient un petit peu nerveux de instrumentaliser Charles III, hein. T'sais, parce que eux aussi, là, ils ont des enjeux avec les États-Unis, ils ont un début d'accord commercial avec les États-Unis, la Grande-Bretagne. Donc, tu sais, ils sont un peu nerveux là, de qu'on utilise nous Charles III pour dire notre souveraineté. Mais entre vous et moi, là, s'il faut seulement compter sur Charles III pour pas devenir un État américain, on est mal barré.
Ouais, ça va pas bien, là. Non, la royauté qui n'a pas le même impact que ça l'avait peut-être autrefois. Marc-André Leclerc, qui est analyste politique à LCN et au Journal de Québec, il est aussi directeur principal au cabinet des relations publiques chez National et on apprécie toujours nos discussions avec lui. Merci, Marc-André. Toujours un plaisir.
Merci, bonne semaine.
À bientôt. Toujours très intéressant de jaser politique, que ce soit fédéral, provincial ou même à l'international, avec Marc-André Leclerc. Parlant de politique provinciale, après la pause, on va jaser avec Étienne Grandmont, député de Québec solidaire dans Taschereau. Il a annoncé qu'il veut officiellement devenir co-porte-parole du Parti Québec solidaire. Une jasette avec M. Grandmont après la pause. Rage.